Chapitre 3 L'appartement de Charles Castanier. Comme nous franchissions le couloir de la maison et mettions Martin Lu et moi le pied sur le premier escalier, la concierge, qui se précipita, nous interpella. « Eh, messieurs, où allez-vous ? » Nous étions passés devant la loge sans rien dire. Martin Dumas, à la vérité, avait par le vitrage jeté un coup d'œil, mais il continua sa route sans rien demander à la préposée au cordon. Elle redemanda « Chez qui allez-vous ? » Martin Dumas, tout bas, lui répondit « Chez M. Castanier, il n'est pas là. C'est pour cela même que nous venons chez lui. » Comme la concierge regardait avec ébahissement Martin Dumas, celui-ci mit sous ses yeux une petite carte dont elle connaissait la signification, car aussitôt elle tressaillit. Bien, balbutia-t-elle. Oui, c'est bon, vous pouvez monter. Merci. Mais pour rentrer chez M. Castanier, il faut des clés. Sans doute. Vous les avez ? Non, je m'en passerai. Bien, verrou de sûreté. Martin Dumas eut un sourire. Il saisit la concierge par le bras et lui dit de son ton incisif. Vous avez du monde dans votre loge ?
Oui, monsieur.
Et naturellement, vous étiez en train de parler du drame qui s'est déroulé chez le père de votre locataire.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, parfait, continuez. Seulement, vous ne souffrez nul mot de ma présence ici. Vous ne direz pas que je suis et chez qui je vais.
Non, monsieur, je me tairai.
Attendez, je ne demande rien qui soit au-dessus des forces humaines. Vous vous tairez tant que je serai dans la maison. Après, quand je serai parti, vous vous rattraperez. Mais tant que je serai ici, silence, entendez-vous, silence absolu.
Bien, monsieur, bien.
D'ailleurs, vous n'aurez pas trop à attendre, une demi-heure tout au plus. La maison se trouvait rue d'Amsterdam. Elle était d'apparence moyenne. L'escalier indiquait le chemin d'appartements modestes, petits rentiers, bourgeois ou employés, gens paisibles. Charles Castanier occupait là un appartement. Comment Martin Dumas avait-il appris l'adresse de la maison, l'étage et la porte d'entrée de l'appartement ? Je ne m'en doutais pas, mais je ne m'avisais pas de m'interroger sur ce point. Ce qui me préoccupait en ce moment, c'était non pas de savoir comment il connaissait cette adresse de Charles Castanier. Puisque nous étions dans la maison, c'était un fait acquis, et en somme assez ordinaire. Mais comment nous pénétrerions chez le fils du banquier, sans clé, sans enfoncer les portes, sans éveiller l'attention ? Je brûlais du désir de savoir, et cependant, connaissant le caractère de mon ami, je n'osais lui faire de questions à ce sujet. Il pressentit sans doute mon désir, car il cessa de monter deux par deux les marches. Se penchant vers moi, il me dit « Charles Castanier habite ici. J'y suis venu déjà pour les diamants. » Il n'a pour serviteur qu'une vieille femme de ménage qui vient le matin. Elle est venue aujourd'hui comme de coutume. Elle a fait son travail. Elle est partie sans se douter probablement du rôle que joue son maître dans cet horrible drame. Rue d'Amsterdam, Charles Castanier se trouvait tout près des cercles où il passait ses nuits, de la gare qui le menait au champ de course. Il était aussi sur le chemin que Blanche Morrison prenait pour entrer chez ses parents, demeurant rue Moncey, à proximité, en somme, de la banque, où le papa Morrison tenait la caisse. Je connais de longue date ce roman. J'espère enfin que notre visite ne sera pas infructueuse et que nous ne ferons pas chou blanc. Oui, sans doute, mais hasardais-je comment? Allons-nous pénétrer chez Charles? Oh, c'est ce que vous me demandez. Oui, j'avoue que sans clé, le verrou de sûreté. Bon, rien de plus simple. Martin Dumas sourit et ajouta. Un bon policier doit pouvoir être un bon cambrioleur. Nous allons entrer chez M. Castagnier, puisque nous sommes venus pour cela, aussi facilement que si à notre coup de sonnette, le locataire lui-même nous ouvrait la porte. Nous étions arrivés devant la porte de l'appartement de Charles Castagnier. Martin Dumas appuya la main contre les panneaux de la porte, pesa dessus afin de les tâter, de les ausculter, pour ainsi dire. « Bon, dit-il, fermé à clé de serrure habituelle et au verrou de sûreté, oh, c'est parfait. » Il prit dans sa poche une sorte de portefeuille assez volumineux, tira d'un des compartiments de cette trousse plusieurs tiges d'acier qu'il assembla au moyen d'une bague. Il égalisa les tiges en les frappant sur le dos de sa main. Cela formait comme un faisceau de lamelles d'acier. Ce faisceau, il le glissa dans la gorge de cuivre qui affleurait à la porte, ouverture de verrou de sûreté, et poussa doucement à petits coups. Puis il donna un tour de poignet. Un bruit de fer qui glisse se fit entendre. « Bien voilà le verrou ouvert, » dit simplement Martin Dumas. Il me montra son instrument de cambrioleur. Les tiges, les lamelles d'acier, plus ou moins enfoncées, prenaient, comme si elles se moulaient sur les dents de la serrure, l'empreinte nécessaire. Elles entraient dans les creux, mordaient et opéraient comme eût fait la clé elle-même. « Ce rossignol moderne style chante admirablement, » fit Martin Dumas. « Quant à la serrure habituelle, c'est un jeu d'enfant. » Il prit un nouvel outil dans sa trousse, le glissa dans la rainure de la porte, donna un coup sec. La porte s'ouvrit sans bruit, tout naturellement. « Entrons, » dit-il, « nous voilà chez nous. » L'appartement se composait d'une antichambre et de deux pièces. De l'une, Charles Castagnier avait fait un salon fumoir, de l'autre, sa chambre à coucher. L'appartement était très coquettement arrangé. « Main de femme, » dit ici tout simplement Martin Dumas, « vous vous sentez ?» En entrant, en effet, on percevait une odeur agréable et douce. « Ce parfum imprécis et caressant, me dit Martin Dumas, qui flotte dans l'appartement, indique plutôt que le simple passage de la femme ici, la présence régulière d'une femme. « Bon, je ne fais pas grande différence, balbutiai-je. Il y en a une très grande, cependant. » La senteur n'est plus la même quand dans un appartement plusieurs femmes sont venues ou quand une seule y séjourne. Après plusieurs, le parfum est quoique toujours agréable, mais fort et impersonnel. C'est un mélange, un parfum multiple et anonyme. Mais quand c'est une seule femme qui vient là, l'arôme est partout le même et garde sa saveur spéciale, personnelle. Nous entrons dans le fumoir. Là encore, à de nombreux détails, se révélait la présence de la femme, non celle qui ne fait que passer, mais de celle qui constamment revient, qui demeure là et se plaît à embellir son nid. Dans l'ameublement, des riens qui échappent aux hommes, auxquels les tapissiers ne pensent pas. Des attaches en ruban, des coins de dentelle, un arrangement original, des fleurs, des plantes frêles en témoignaient. Martin Mumma me dit encore: Oh, je gage que la jeune femme qu'elle est saisie de ses 12 drasses de son passage est blonde, plutôt grande et mince. Je regardais mon ami avec quelque étonnement. Mon cher, lui dis-je, mais vous allez un peu loin dans vos pronostics. Passe pour le parfum du logis, mais devinez la taille, la couleur de celle qui l'habite, vraiment c'est trop. Oh, je vous fournirai la preuve de ce que j'avance. Tenez d'abord, cette jeune femme est grande. Voyez, la portière ici est relevée très haut. Martin Dumas me désigna ensuite un fauteuil. Oh, c'est celui qu'elle préférait. Le coussin en bas du dossier n'indique que sa taille longue, par conséquent mince. Il avait besoin pour se bien reposer de cet appui à cette place. Il n'y a pas de coussin de pied, donc les jambes reposaient sur le tapis. Elles sont assez longues, c'est assez facile à juger. Tenez, voilà une paire de gants oubliés. Voyez la longueur des doigts. C'est la main d'une femme plutôt grande. Oh, si nous voulions pousser plus loin, nous établirions avec le creux du fauteuil la marque des pieds sur le tapis, la hauteur du relèvement de la portière et la pointure du gant, la taille exacte de la jeune femme. J'admets tout cela, mais où voyez-vous qu'elle est blonde? Mais partout! La couleur des tentures, des rideaux et des rubans clairs sont pour une blonde. Je m'inclinai. Mais, reprit mon ami, ce n'est pas de cette jeune femme qu'il s'agit, mais de Charles Castanier, du pouce du fils du banquier, qu'il faut découvrir. Cherchons. Sur le piano se trouvait la dernière partition ouverte, parcourue la veille peut-être. Sur un guéridon, le rouleau de cuir dans lequel Blanche Morrison emportait les morceaux de piano pour les leçons de ses élèves. Au mur, quelques tableaux, des dessins, des photographies de chevaux. Sur la table de travail, près de la croisée, des journaux de sport, des cartes de champs de course, des tickets. Martin Dumas s'était assis à cette table sur laquelle Charles Castanier écrivait. Il furetait, cherchait, examinait avec cette attention extrême qu'il apportait dans ses perquisitions. Puis il se leva, le front plissé. Il ne trouvait rien qui lui convînt. Alors il passa dans la chambre à coucher et chercha encore. « Oh, nous venons un peu tard, dit-il, la femme de ménage a nettoyé, essuyé partout. Tout ce qui pouvait garder l'empreinte des mains, des doigts, les verres, tout est frotté. Oh, c'est désolant. » Tout en parlant, Martin Dumas parcourait la pièce. Il souleva un rideau qui masquait une sorte d'alcôve dans laquelle se trouvait rangée toute une série de bottines et de souliers. Il avisa une paire de bottines vernies, les sortit du rayon et les examina minutieusement, puis il les replaça. Dans les basques d'une redingote qu'il tâta à tout hasard, il sentit un paquet assez gros. « Oh, des gants oubliés, dit-il. Oh, c'est presque ce que nous voulons chercher. » Il prit les gants, les mit dans sa poche, ayant jeté un coup d'œil dans la chambre à coucher, il revint dans le salon fumoir. Une seconde fois, il s'assit devant le bureau. Alors, il ne se contenta pas d'en examiner le dessus, les porte-plumes, les divers objets qui l'encombraient. Il fouilla dans le papier à lettres, ouvrit le buvard et les tiroirs. Un tiroir contenait plusieurs lettres que Martin Dumas, en voie d'indiscrétion, ne se fit aucun scrupule d'ouvrir et de lire. « Bon, s'il les a laissées, dit-il, c'est qu'elles ne font qu'un caractère sérieux. Mais à moi, elle pourrait fournir quelques indications, un éclaircissement, me mettre sur une voie. Au bout de quelques minutes, il dit, remettant les papiers en place, bon, réclamation de créanciers, mise en demeure de fournisseurs, menace. Je comprends. Chez les Castagniers, Charles était vraiment à bout. Martin Dumas prit une feuille de papier, quelques notes, puis il me demanda: Savez-vous l'anglais, Courville? Pas très bien. Vous ne sauriez pas me traduire cette lettre? Je ne crois pas. C'est regrettable. Dans ce cas, comme je pense qu'elle me sera utile, je la garde. C'est une lettre qui vient d'Amérique. D'Amérique? Oui, la lettre est datée de Détroit. Détroit, la ville rurale de Chicago. Parfaitement. Donc Charles Castagnier avait déjà, à l'époque où cette lettre lui parvint, il y a 6 mois, l'intention d'aller en Amérique. Mais dans quel but, pourquoi faire? Probablement, à ce moment déjà, songeait-il à parler avec Blanche Morrison, a trouvé pour elle aussi le moyen de gagner sa vie. Mais je le répète, c'est une simple supposition. En tout cas, j'ai déjà un point de départ. Je sais que Charles Castagnier était en rapport avec une maison américaine de Détroit. Et tout me porte à croire que c'est en Amérique que Charles Castagnier et la fille de ce pauvre papa Morrison ont été chercher une vie nouvelle. Peu après, nous quittions l'appartement du fils du banquier. Martin Dumas fermait la porte avec la même facilité qu'il l'avait ouverte, et nous descendions les escaliers. Arrivé devant la loge, Martin Dumas se pencha vers la porte vitrée derrière laquelle la concierge, dont sans aucun doute la langue brûlait, guettait avidement son passage. Il fit de la main un signe comme pour dire « Allez-y maintenant, vous pouvez tout raconter aux bonnes coutumomères qui attendent et savent déjà la plus grande partie du secret. Votre supplice du silence est fini. » Comme nous arrivions sur le trottoir, Martin Dumas tressaillit. « Qu'y a-t-il ? » lui demandai-je. Il me prit le bras, se pencha sur moi pour me parler à voix basse. Mon cher Courville, vous allez pour une fois être policier et me rendre service. Oh, très volontiers. Ne vous retournez pas, c'est pas la peine. Écoutez-moi bien, vous m'entendez? Parfaitement, et je ne tourne même pas les yeux. C'est très important, nous sommes pistés. Ah oui, comme vous le supposiez. Suivis, espionnés, oh, nous ne les avons pas déroutés. Allons donc, croyez-moi, ne vous tournez pas, je vous en conjure, vous donneriez l'éveil et ne découvrirez rien. Alors, que dois-je faire? Attendez. Procédons par ordre, écoutez-moi. Sur le trottoir d'en face se trouve un homme brun, trapu, assez élégamment vêtu. Ah, c'est lui qui nous surveille? Oui, c'est lui. Mais qui peut vous faire dire cela? Mais cet homme se tenait sur le trottoir opposé quand nous sommes sortis de la banque Castagnier pour venir ici. Oh, en êtes-vous certain? Vous savez que j'ai de bons yeux. Il nous a vus sortir de la maison du banquier Castagnier. À présent, il se trouve encore sur le trottoir opposé, quand nous sortons de la maison de Charles Castagnier. Ce n'est nullement un fait du hasard. Non, en vérité. Donc cet homme a mission de nous pister. Nous devons d'ailleurs nous en assurer. Bien. Moi, je vais continuer ma route. Vous allez remonter la rue
Vous retournerez au bout d'une vingtaine de pas, puis vous suivrez le bonhomme tant qu'il me suivra, sans vous faire remarquer. Et si je prends une auto, prenez-en une aussi. Entendu. Un bureau de tabac se trouvait non loin de là. Il m'y fit entrer avec lui. Il acheta deux cigares, m'en donna un, et tout en m'entraînant vers l'allumoir, se trouvant, comme dans tous les bureaux de tabac, près de la porte, il me désigna encore notre homme qui, très inquiet, stationnait sur le trottoir opposé, surveillant l'entrée du bureau de tabac. « Vous le voyez bien ?» me demanda-t-il. « Oui, parfaitement. Vous pouvez vous tromper. »« Maintenant, non, je le tiens. »« Bon, alors, nous allons nous dire au revoir sur le trottoir. » Très simplement, comme si nous nous quittions. Moi, je vais continuer en descendant. Lui va me suivre et vous, bien vous le filerez sans qu'il s'en doute. Tandis que nous parlions sur le trottoir, que nous nous serrions la main pour nous dire au revoir, deux taxis à vide passèrent devant nous. Des passants firent signe au chauffeur. « On va au garage, » dit le premier. « Je rentre, » dit le second, « plus d'essence. » Et majestueusement, avec ce dédain auguste des chauffeurs parisiens pour les malheureux piétons, ils continuèrent flegmatiquement leur route. Martin Dumas, son cigare aux lèvres, lançant ses bouffées de fumée comme un homme paisible qui ne prépare aucun projet mystérieux, descendit, sans trop se presser, la rue d'Amsterdam. De l'autre côté du trottoir, l'homme brun descendait à la même allure. J'avais fait quelques pas en remontant, puis entrant dans un corridor, j'en étais ressorti aussitôt pour redescendre la rue. C'était un moyen que m'avait indiqué Martin Dumas pour ne pas donner l'éveil. Un homme qui brusquement change de direction, revient sur ses pas, est toujours remarqué et attire l'attention. Dans mon cas, l'important était surtout de passer inaperçu. Je descendis donc la rue en tenant à 20 pas au plus de l'honnête homme brun qui suivait Martin Dumas. Je trouvais, à vrai dire, un certain plaisir à filer à mon tour cet homme qui en épiait un autre. Cette sorte de chasse n'est pas sans procurer de l'émotion, et je goûtais à ce moment-là l'attrait qu'éprouvait mon brave ami lancé à la poursuite de ce qu'il appelait son gibier de potence. Depuis 3 ou 4 minutes à peine, je marchais derrière le mystérieux homme brun, tout en apercevant une 30aine de mètres en avant Martin Dumas, quand le détective tout à coup s'arrêta. Martin Dumas, d'un air absolument tranquille et posé, tira sa montre et regarda l'heure. « Sapristi, » sembla dire sa mimique, « je suis en retard. » Le premier taxi se trouvait presque à côté de lui. Il fit signe au chauffeur. Et le chauffeur, qui allait au garage, selon ses déclarations de tout à l'heure, s'arrêta presque aussitôt, se rangea complaisamment le long du trottoir. Martin Dumas parlementa quelques secondes avec lui, puis ouvrit la portière et s'engouffra dans le taxi. Le second taxi, sans essence, s'était, dans une manœuvre adroite, rapproché du trottoir opposé, et se trouvait à la hauteur du mystérieux homme brun. Celui-ci aussitôt héla le chauffeur qui tout à l'heure refusait de charger. Très complaisamment, l'homme du volant s'arrêta. Les mots que l'homme brun prononça parvinrent à mes oreilles. « S'offrant pour vous, si vous suivez cette voiture !» « Très facile, monsieur le baron, montez !» L'homme brun entra dans le taxi qui s'éloigna aussitôt, et je vis le mystérieux personnage penché par la portière
qui continuait sa filière tout en roulant et s'assurait par lui-même que son chauffeur ne perdait pas de vue le taxi qu'il fallait suivre. Je me trouvais un moment très perplexe, très embarrassé, quand je m'entendis appeler. « Monsieur Courville, hop, vite, embarquez-vous !» À côté de moi, rangé le long du trottoir, se trouvait un troisième taxi que je crus sur le moment, comme dans une féerie, sortir de dessous terre. Ainsi que dans les contes de fées encore, ce chauffeur connaissait mon nom et probablement aussi savait où il devait me conduire. Je n'hésitai pas et sautai dans le taxi qui roula sans que j'aie dit autre chose que ces mots, résumant toute ma pensée dans cette situation. « Ça va, marchons !» Donc les trois taxis se suivant, s'épillant, descendirent vers le centre de Paris. Ils franchirent le boulevard Haussmann, puis les grands boulevards à la hauteur de la place de l'Opéra. Au moment où mon véhicule entrait dans la rue de Rivoli, tout à coup il dut s'arrêter devant le bâton blanc d'un sergent de ville. Je regardai par la portière. Mon chauffeur était le premier arrêté par le représentant de l'autorité. Et furieux, il parlementait avec le détenteur d'un bâton de commandement. « Mais laissez-moi donc passer pour le service !» Le gardien de la paix, gros homme à barbiche énorme, raide, dur, n'avait qu'une consigne et ne comprenait pas autre chose. « Service, que je te dis !» lui répétait mon chauffeur. « Service !» Grave, inflexible, dans sa barbiche, le sergent de ville répondit. « Il n'y a pas de service, la loi est pour tous. »« Imbécile !» ne put s'empêcher de dire mon homme. « Mais c'est du rouspète, répliqua le bâtonnier de la paix. « Je te fais conduire au poste. » Mon chauffeur éclata de rire. « Celle-là serait trop bonne. » De mon côté, connaissant le fond des choses, je partis également d'un éclat de rire. Mon chauffeur, qui était assurément un agent de la sûreté, conduit au poste par un autre agent, pour avoir voulu remplir une mission de police, c'était drôle, en effet. Quand, au bout de quelques minutes, le déblaiement, toujours difficile en cet endroit, se fit, nous pûmes enfin reprendre notre course. Peu après, nous pénétrions dans la cour du dépôt, ayant rattrapé les deux autres taxis. La porte, qui allait se fermer, ne s'entr'ouvrit que sur un signe de mon chauffeur pour me laisser passer et se ferma derrière moi. Je vis Martin Numa parler à deux agents accourus quand il sauta à terre. Je descendis de ma voiture et, pressentant une manœuvre de police, je me tins un peu à l'écart pour mieux voir. Les deux agents se portèrent de chaque côté de la deuxième voiture, celle qui contenait le mystérieux homme brun. Martin Numa avait les cils contractés et un pli d'anxiété autour de sa bouche. « Tu peux ouvrir, » dit-il au chauffeur de la deuxième auto, quand les agents se furent placés devant chaque portière. Le chauffeur appuya sur la lanterne droite qui s'inclina et tourna. Aussitôt, la portière de droite s'ouvrit. « Descendez !» fit l'agent en étendant les mains comme pour saisir quelqu'un dans l'intérieur. « Descendez !» Mais personne ne descendit. Dans le taxi, rien ne bougea. Martin Numa, très calme généralement, tapa du pied dans un geste de colère. « Oh, je m'en doutais !» fit-il, « il s'est échappé !»« Et cependant, chef, j'ai bien fermé la portière, il ne pouvait pas s'en aller !» « Il est parti quand même !» Tournant les yeux vers moi, Martin Numa m'interrogea. « Vous n'avez rien vu ?» Je lui racontai l'incident de la rue de Rivoli, notre arrêt devant le bâton blanc. Ben, c'est pendant ce temps-là que l'homme a pris la fuite. Martin Dumas alors s'approcha du taxi et l'examina. Il fit fonctionner le mécanisme, tout marchait à souhait. Quand le chauffeur appuyait sur le ressort placé près des lanternes, il était impossible d'ouvrir les portières. Pour s'échapper, il fallait briser une vitre. Mais sauter par cette issue était des plus dangereux, presque impossible. Un homme ne sortirait pas par le cadre de la vitre, par la portière non ouverte. Martin Dumas passa alors derrière la voiture. Voilà, dit-il, par où il est parti. Le cuir de la capote, qui est cloué au bois de la caisse, était découpé très nettement au ras de cette caisse. L'entaille remontait le long de l'armature qui va soutenir le dessous du taxi. Il y avait un triangle de cuir soulevé, une ouverture permettant à un homme de passer très aisément. C'est cela, dit Martin Dumas. En route, voyons, nous nous dirigeons. Il a voulu s'en aller. La course devenait inutile. Les portières ne pouvant s'ouvrir, il a compris qu'il était prisonnier, que nous l'avions deviné, que le taxi était à nous, bref, qu'il était pris au piège. Il a voulu fuir. Il porte aussi une trousse sur lui. Tranquillement, il a découpé le coin de cuir. Sauter alors sur la chaussée en passant sur les quais à peu près déserts n'était plus qu'un jeu pour lui. Bref, il nous glisse entre les doigts. Martin Dumas, après un court silence, me dit: Ben, cela m'indique que les criminels que nous cherchons ont leur police aussi, et que nous aurons affaire à très forte partie. Ben, tant mieux. Chapitre 4. Les disques de couleur. Le marquis di Carmine Santucci se tenait dans son salon où il recevait, au nom de la famille du banquier, les amis venant exprimer leurs sentiments de condoléances avant de former le cortège funèbre. Le salon était déjà plein de monde. Le marquis se tenait auprès de la cheminée, tournant le dos aux immenses croisées. Il serrait les mains qui se tendaient vers lui et remerciait par quelques mots. Martin Dumas s'avança comme pour aller auprès du marquis, mais il jeta seulement un rapide coup d'œil vers la cheminée, et avec cette souplesse de mouvement remarquable chez lui, il sut faire un crochet, se retirer de la queue des visiteurs et se glisser sans qu'on remarquât sa manœuvre vers un coin du salon. Je le vis alors sortir de sa poche une petite boîte. Dans cette boîte se trouvait un gant noir, comme celui qui déjà recouvre sa main gauche. S'abritant bien auprès de moi pour accomplir sa manœuvre, il passa ce gant avec des précautions infinies. Il me précéda et reprit place dans la queue des visiteurs qui se déroulait devant le marquis. Je vis qu'il tenait sa main droite dans son chapeau comme pour la protéger contre tout contact. Arrivé devant le marquis, il tint son chapeau sous son bras gauche. Il s'inclina, prononça quelques paroles de circonstance. Oh, monsieur Martin Dumas, lui dit le marquis, combien je vous suis reconnaissant d'être avec nous dans cette douloureuse affaire. Vous nous apporterez mon, sinon la consolation, du moins la satisfaction de la vengeance, en jetant devant les juges le misérable qui cause notre deuil. Je m'y emploierai de toutes mes forces. Merci, au nom de Madame Castagnier, de sa fille éplorée, merci, en mon nom. Le marquis tenait la main droite à Martin Dumas. Le marquis, selon le protocole mondain, ne portait pas de gants. C'est ce dont tout à l'heure était venu s'assurer le détective. Mon ami s'empara de la main droite qui lui était tendue. Je le vis alors, tout en s'inclinant, ne pas se contenter de serrer la main du marquis, mais encore, contrairement à tout usage, poser sur elle sa main gauche et appuyer fortement comme pour accentuer sa poignée de main, donner plus de force à ses paroles, affirmer son engagement, son dévouement. Je trouverai, dit-il, oh, je trouverai le coupable. Mais le marquis ne proféra plus un mot. Je le vis pâlir subitement et porter instinctivement ses yeux sur la main de Martin Dumas en menant la sienne. Puis, quand Martin Dumas lui rendit la liberté de sa main et l'ayant salué s'éloigna de lui, je vis encore une lueur étrange dans le regard du marquis. Ce fut avec un singulier sourire au coin des lèvres qu'il répondit à mes paroles de condoléance. Je rejoignis Martin Dumas. Il s'éloignait, gardant de nouveau sa main droite dans son chapeau à l'abri de toute atteinte. Naturellement, je le suivis, ne voulant pas le laisser échapper, étonnant à connaître la raison, le résultat de cette manœuvre étrange dont rien ne m'avait échappé. Martin Dumas descendit rapidement l'escalier que les décorateurs avaient ornementé de tentures funèbres de plantes vertes. Les deux cercueils se trouvaient dans le vestibule, transformés en chapelle ardente et encombrés de fleurs d'énormes couronnes. Martin Dumas sortit de la maison, tenant toujours sa main sous le chapeau, et se faisant du bras gauche un passage dans la foule qui stationnait devant la maison, sur le trottoir, envahissait la chaussée. Il ouvrit rapidement la portière d'une auto, s'engouffra dans le véhicule, tout en me donnant cependant le temps de sauter derrière lui et de me placer à ses côtés. Le chauffeur, quand le bruit de la portière fermée lui dit que nous étions en place, partit aussi vite que cela lui fut possible dans cet encombrement. Les glaces de la voiture étaient striées en dedans. Ainsi, du dehors, les glaces lisses et brillantes n'offraient rien de particulier en apparence, rien qui les distinguât de celles des autres voitures. Mais il était impossible de voir qui se trouvait derrière. Cependant, à la hauteur des yeux de Martin Dumas, les stries des glaces étaient polies et une bande étroite très claire permettait de voir au dehors comme par un judas. C'était la voiture aménagée pour l'usage de Martin Dumas et très ingénieusement machinée. Oh, elle contenait bien d'autres particularités. Elle était blindée de plaques d'acier dissimulées sous le cuir et les panneaux de bois. Il se trouvait, pour ainsi dire, à l'abri des coups de revolver qui parfois la saluaient au cours d'enquêtes excentriques. Dans un coffre devant se trouvait tout un attirail de policiers aussi bien confectionné que celui des cambrioleurs modernes. Sous les coussins d'arrière, Martin Dumas plaçait des effets de déguisement, selon les nécessités du camouflage. Quelques vivres pour les longues stations et les boîtes de pharmacie portatives. C'était l'homme de toutes les précautions, on le voit. Une fois en route, Martin Dumas, sans rien me dire encore, enleva délicatement le gant de sa main droite. S'approchant de la glace pour le mettre bien en lumière, il l'examina avec attention. « Oh, c'est parfait !» dit-il alors. Et il plaça le gant avec des précautions infinies dans la boîte d'où il avait sorti tout à l'heure, l'entoura précieusement de coton et remit le tout dans sa poche. Puis, tirant son étui à cigarette, « Maintenant fumons !» dit-il avec un air de parfait contentement. « Oh, je crois que je n'ai pas perdu tout à fait ma matinée !» J'avais pour principe, pour règle, pour ligne de conduite à suivre, quand Martin Dumas m'emmenait dans ses recherches, de ne jamais lui poser de questions, cela lui déplaisait extrêmement. S'il avait quelque chose à me faire connaître, il me le disait, sans que j'eusse cette peine de le lui demander. Si j'avais compris, deviné, à quoi bon parler pour me faire donner la confirmation de ce que je savais? Martin Humard se rendait compte immédiatement de mon état d'esprit, du degré de ma compréhension, si je puis dire ainsi. Et quand le moment était venu à son gré, il achevait de m'éclairer. La voiture roula un temps assez long. Je ne savais pas où nous allions. « Nous arrivons, » me dit Martin Dumas, sans même se donner la peine de s'assurer par son petit Judas de verre de l'endroit où nous nous trouvions. « Encore 3 minutes, nous y serons. » Et, se tournant vers moi, « Savez-vous, » me dit-il, « comment je devine, sans me préoccuper du dehors, que nous sommes à peu près arrivés au but de notre course ?»« Ma foi, non. Bien simplement, je sais le temps qu'il nous faut, à peu de choses près, pour aller de tel endroit à tel autre. Et je compte, non sur ma montre, pour l'évaluer, le vérifier, mais sur ma cigarette. Oh, comment ! Je mets régulièrement dans l'état d'esprit où je me trouve ce matin 10 minutes à fumer ma cigarette. Je viens de finir ma seconde avec 3 minutes d'intervalle, donc 23 minutes. Et pour venir de la rue Le Pelletier à Passy, où nous nous trouvons, il faut 25 minutes. Alors encore quelques tours de roue et nous serons arrivés. Pas plus difficile. » En effet, quelques secondes après ces dernières paroles, la voiture ralentissait. « Vous voyez, » dit Martin Dumas, « la cigarette vaut toutes les chronomètres du monde, quand on sait la fumer. » Il posa la main sur la poignée de la portière, mais au lieu de baisser cette poignée pour ouvrir, il la leva. Presque aussitôt, un sifflet se fit entendre dans la voiture. Martin Dumas lâcha la poignée. « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» Devant lui, sur le panneau, derrière le chauffeur, un disque blanc apparut. « Bon, » fit le policier, me désignant le signal. « Attention, nous continuons notre promenade. » La voiture reprit son allure. À côté du disque blanc, un autre disque jaune se montra aussitôt. Quelqu'un de suspect à droite, dit Martin Dumas. Tiens, tiens. Il colla son visage à la glace striée et regarda par son Judas de verre. Ah, le voilà! Et il poursuivit, parlant pour moi. C'est encore un homme brun à forte moustache noire qui se tient sur le trottoir, ayant l'air de chercher un numéro de maison. Il porte un manteau de fourrure déjà, ce qui indique qu'en cette saison, il a froid. Il ne se contente pas du par-dessus de demi-saison, comme nous. C'est un frileux, ou bien un méridional. D'ailleurs, son pied court dénote un espagnol ou un italien. Mais la présence de cet homme est peut-être fortuite. C'est un hasard sans conséquence. Pardon, écoutez ce paradoxe. Il n'y a pas de hasard sans conséquence, par ce fait précis que le hasard n'existe pas en réalité. Cependant, dans la vie habituelle, mais nous ne sommes pas dans la vie habituelle, mais dans une vie toute spéciale, ce qui est bien différent. Oui, assurément. Mais que deux amis, après une longue absence, se retrouvent tout à coup sur le boulevard, c'est ce que vous pouvez appeler un hasard de la vie actuelle, dont la conséquence est généralement un bon dîner. Mais nous quittons la maison d'un banquier assassiné dans des conditions des plus mystérieuses. Le banquier allait avoir pour gendre un marquis italien. Vous n'allez pas voir un rapprochement. Mais nous venons de voir ce marquis italien dans la maison du crime. et nous trouvons par deux fois rue d'Amsterdam et ici, devant la maison du détective, qui court après le coupable, un individu à apparence d'Italien, en quête aux aguets. Et vous ne voulez pas trouver cette coïncidence tout au moins singulière? Vous ne voulez pas que ce hasard n'en soit pas un? Secouant la tête, Martin Dumas ajouta en souriant: « Ah, mon cher Courville, vous me désolez. Voyez mon chauffeur, un collaborateur précieux, qui a des yeux merveilleux, un flair exceptionnel. Mais il a jugé immédiatement, lui aussi, la présence de ce personnage dans cette rue assez inquiétante pour me donner l'alarme. Il a pressé une poire pour siffler et m'avertir et, appuyant sur des boutons électriques placés sur les côtés de son siège, il m'a indiqué la nature du danger. Le disque blanc à droite signifie que le péril est de ce côté. Le disque jaune indique un danger de faible importance, quelqu'un ou quelque chose de douteux. Plus sérieux, le disque était vert. Rouge, oh, il annonce le péril. Je n'ai ainsi pas me montrer. Sans modification apparente, sans que mon homme quitte non seulement son volant, mais son poste d'observation, nous pouvons correspondre par deux petits tubes acoustiques. Je peux ainsi être renseigné très exactement et donner mes ordres. Pour le moment, nous n'avons rien à faire qu'à laisser le chauffeur agir à sa guise. Il nous tirera d'embarras. En effet, au bout de quelques minutes, le sifflet retentit à nouveau et les disques disparurent. Puis la voiture s'arrêta. Cette fois, sans hésitation, Martin Dumas ouvrit la portière et sauta sur le trottoir. Je le suivis sans souffler mot.